Les musiciens en leur temps, une émission proposée par Daniel Cabanis.
Sous le titre de L'opéra se moque, nous allons analyser quelques situations où des professionnels sont ridiculisés par librettistes et musiciens. En effet, si l'opéra émeut souvent, il ne craint pas la dérision et comme au théâtre, certains personnages suscitent facilement le rire. Si le théâtre, notamment avec Molière, s'est largement gaussé des médecins, on a tous en tête le célèbre Diafoirus, quand il ne s'agit pas de Sganarelle ou Toinette déguisée en faux médecin, l'opéra se délecte de juristes grotesques, parmi lesquels les notaires constituent un bataillon aisé à tourner en bourrique. Ces professionnels sont aussi fréquemment épinglés par les auteurs de pièces de théâtre, au même titre d'ailleurs que les médecins qu'on a évoqués, en raison de leur commune incompétence. En effet, les notaires ne suivaient pas d'études de droit complètes, sauf exceptionnellement, mais faisaient un apprentissage de formules qu'ils utilisaient, recopiaient à plus ou moins bon escient, avec cette préoccupation, c'est que plus les actes étaient longs, mieux le notaire était rétribué, ce qui est en partie caricatural. De même que les Diafoirus annoncent des diagnostics ineptes et proposent des traitements grotesques quand ce n'est pas carrément dangereux, que les chirurgiens sont en fait des barbiers, scalpel oblige, certains notaires étaient passés maîtres dans l'art du n'importe quoi, même si on trouve évidemment des cas de professionnels sérieux qui ont fait leur travail consciencieusement. Les juges sont également au cœur des critiques parce qu'ils prennent de mauvaises décisions. Nous allons donc abandonner les médecins, en tout cas pour aujourd'hui, et nous concentrer sur les juristes et dégager quelques exemples de ces défauts qu'on leur prête, incompétence et ou malhonnêteté. À l'opéra, s'il y a de vrais professionnels, ils sont l'exception. Ainsi, par exemple, dans la Sonnambula de Bellini, opéra riche en rebondissements et quiproquos, dans la préparation de son mariage avec Amina, Elvino fait procéder à l'énumération de tous les biens qu'il apporte. Tandis que sa belle chante un charmant « Il cor soltanto ». Mais c'est là une exception, et on ne peut citer tous les exemples de faux notaires qui veulent aussi bien empêcher un mariage qui ne convient pas à une jeune fille, que l'on voudrait voir convoler avec un barbon ou plus rarement un jeune homme avec une vieille femme, à moins que par un faux mariage, on veuille prendre de vitesse les auteurs de quelques mauvais projets et fixer le sort de jeunes gens assortis et amoureux. Librettistes et compositeurs s'amusent et forcent sur la note comique, pour présenter des situations plus ou moins cocasses dont l'issue est d'abord un éclat de rire. Nous en retiendrons quelques-unes, à nos yeux particulièrement parlantes. Mozart, qui aimait rire, avait une réelle prédilection pour ce genre de situation. Ainsi, dans Così fan tutte, la soubrette d'Espina déguisée en notaire aligne formule sur formule pour simuler un acte notarié sérieux qui conclurait le mariage des couples inversés.
Ecco di medico, signore pelle,
che sfida in maschera, che trista pelle.
Salvete amabile, studis poete,
parli un linguaggio che non sappiamo.
Mi comandano tutti quei amo, sol per quello, sol per quel vanto, lo aspetto in cerco, sol per parlo.
Quanti linguaggi per sé conservi, quei miserabili, per ora servi, presano in tossico,
che si può fare.
Mais lorsque le poteau rose est découvert, après la grande fureur des fiancés trompés par leur belle, elle-même très en colère d'avoir été manipulée, tout est bien qui finit bien. Après la pluie, le beau temps, comme aurait dit la comtesse de Ségur. On se pardonne, on s'embrasse et on s'apprête à se marier dans la poursuite du projet initial. Mozart met toute son imagination au service de ce qui est avant la lettre un vaudeville, encore un peu grinçant. Non, sans cynisme, il y a la volonté de donner une leçon de vie, sans trop réfléchir aux conséquences. On retrouve un magistral quiproquo dans les noces de Figaro, lorsque Marcellina, en fait la mère de Figaro, ce qu'ils ignorent l'un et l'autre, exige qu'il l'épouse pour effacer une dette dont le non-remboursement devait avoir cette conclusion. Juges et notaires sont absolument grotesques, ne comprennent rien, disent n'importe quoi et en forçant à peine le prêt, tout s'arrange malgré eux. Composé plus tard par Rossini, qui reprend un thème ancien, déjà exploité par plusieurs compositeurs avant lui, le barbier de Séville met en scène le comte Almaviva, encore très jeune, et son comparse Figaro, qui n'est plus à son service, mais est toujours disponible pour tous les tours pendables. Il va l'aider dans sa volonté de séduire la belle Rosine, gardée par son vieux barbon de tuteur qui veut l'épouser. Et lorsque, malgré toutes les ruses inventées par Figaro, la menace de mariage forcé se précise, avec la complicité de la soubrette de la jeune femme, déguisée en notaire, le vieux grincheux est pris de vitesse et les jeunes amoureux peuvent se marier pour le meilleur et pour le pire, ce qu'avait bien montré Mozart dans les Noces de Figaro et encore dans Don Giovanni. En effet, dans Don Juan, le héros est l'assassin du père d'Anna qui crie vengeance. Il collectionne les aventures et les mauvais coups, mais son statut social le met à l'abri des poursuites de la justice. Encore que pas toujours des représailles orchestrées par Leporello, qui est à la fois fasciné et horrifié par le comportement de son maître. D'ailleurs, qui saura s'en venger quand il peut l'exposer à quelques coups. La justice des hommes est impuissante, mais le commandeur qui l'a assassiné va le provoquer, pour ensuite l'entraîner en enfer. La justice des hommes et son personnel ne pouvaient apparemment rien contre Don Giovanni. Mais la justice divine va se charger de le remettre en place avec la situation devant un Leporello, le succédané de Figaro, qui reste comme tétanisé par la peur. Dans la flûte enchantée, Sarastro fonctionne comme une sorte de juge suprême, et à l'instar de son ennemi et rival, la Reine de la Nuit, qui n'hésite pas à inciter au crime, il décrète, tranche, en se proclamant juge du bien et du mal. Le bonheur se mérite, Sarastro peut ordonner un parcours initiatique semé d'embûches et de périls. C'est la justice, avec un grand J, qui parle par sa bouche. Elle le grandit et solennise tous ses propos. La sagesse triomphe, les méchants sont éliminés. L'amour, lui aussi, est gagnant. Tamino pourra épouser Pamina et Papageno deviendra l'époux comblé de la jolie Papagena, qu'il avait juré sur grande sincérité d'épouser quand il la croyait une vieille femme toute racornie. C'est le fait du roi qui se déclare l'interprète des dieux. Il est la justice, donc point besoin d'intermédiaire, de défenseur ou de médiateur. Pas besoin de notaire non plus, ce ne serait que vulgaire contingence. On peut d'ailleurs faire confiance au juge qui ferme les yeux ou manigance en vue d'un procès truqué, comme celui qui a rendu Virginia en esclavage dans l'opéra du même nom de Mercadante. On écoute ici le beau duo entre Virginia et Icilio. Nous verrons l'évolution de ce type de statut dans les opéras du 19e et quelques-uns du 20e siècle la semaine prochaine.